lecture, acte 17. Marion. Ah, bien Marion. Comment tu sois là? Donc acte 17 et on va commencer au verset 15, je pense. Donc acte chapitre 17, 15 jusqu'à la fin du chapitre. Et si vous avez une Bible blanche, c'est à la page 721.
Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. » Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel
à
avec... »
À partir du chapitre 15, un disciple fils d'une croyante juive et d'un grec. Les trois hommes vont en Phrygie et en Asie. Le Saint-Esprit ne leur permettant pas d'aller en Asie ni en Bithynie, ils se mettent en route pour Troie.
En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denis, l'aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux.
Merci beaucoup Marion. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Quel est le problème de l'être humain? La Bible donne une réponse qui tient en un mot, l'idolâtrie. C'est-à-dire suivre des dieux contrefaits, des faux dieux, des choses qui ressemblent peut-être à un dieu, mais qui ne sont pas Dieu. En tout cas, pas en comparaison avec le vrai Dieu qui existe selon la Bible. Pour comprendre l'être humain, Nous avons besoin de comprendre cette catégorie de pensée, cette rébellion contre Dieu qui consiste à mettre autre chose à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de Dieu? Premièrement, on va chercher à mettre quelque chose qui est moins contraignant, quelque chose qui est peut-être qui va moins me demander, quelque chose qui est moins vivant, qui va moins me parler, me reprendre, quelque chose dans un sens un peu plus facile à gérer. Le problème de l'idolâtrie, toute la Bible en parle d'une manière, d'une autre. Et c'est vrai que si on lit des textes de l'Ancien Testament, on découvre des peuples qui vont rechercher auprès de leur Dieu une bonne récolte, une forme de sécurité alimentaire. Hein. Dans le Nouveau Testament, l'idolâtrie continue à être un problème qui est au cœur du sujet, si je puis dire. On le voit ici. Dans le Nouveau Testament, la question devient plus clairement définie, dans le sens où Dieu se définit plus clairement en Jésus. Et donc, on peut dire, selon le Nouveau Testament, que si quelque chose autre que Jésus-Christ est mon Dieu et ma première priorité, alors je verse dans l'idolâtrie. Je ne sais pas qu'est-ce qui prend une place importante dans votre cœur. Qu'est-ce qui prend une place importante dans vos priorités? Pour nous, les êtres humains aujourd'hui, ça peut être souvent l'argent ou les loisirs. Ça peut être aussi la connaissance. J'aimerais juste utiliser la connaissance ce soir comme un exemple de l'idolâtrie. C'est une idole qui joue un rôle important dans notre société, dans notre ville de Paris en particulier. J'aimerais juste offrir un peu d'analyse. Dans un sens, faire un peu de géographie spirituelle. Juste un mot de reconnaissance à ce niveau. Je retravaille des choses dans ce domaine-là, faites par un gars qui s'appelle Leonardo de Chirico, qui est pasteur, théologien, implanteur d'église à Rome, et qui éclaire, en tout cas, à mon avis, cette réflexion d'idolâtrie, et puis comment est-ce qu'on applique ça à la société ou notamment la ville. Si on avait un regard éclairé par l'esprit, c'est-à-dire si Dieu peut avoir son esprit nous donner de voir clair, qu'est-ce qu'on pourrait percevoir sur ce qui règne dans les cœurs des étudiants à Paris aujourd'hui? L'argent, le pouvoir, la connaissance, d'autres. À Athènes, il y a 2000 ans, la connaissance régnait sur bien des cœurs. Verset 16, il était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Verset 18, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. C'était une ville où il y avait plein de philosophes. Et verset 21, les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés et dernières nouveautés philosophiques, hein, dernières nouveautés de pensée. Il y a une passion pour les connaissances, les nouvelles connaissances, les philosophies. Et c'est pas si loin de Paris. À Paris, nos héros sont, en tout cas nos chefs, hein, sont normaliens, agrégés, énarques, polytechniciens, X-Men, si vous savez ce que ça veut dire. Si on fait une petite analyse, je vous propose 6 points d'analyse. Premièrement, le projet de l'idole. On peut faire ça pour n'importe quelle idole, n'importe quel faux dieu qui prend la place dans nos cœurs. Donc son projet, si on parle de l'idole de la connaissance, c'est arriver au bonheur et à l'épanouissement par la quantité de connaissances et la qualité de la réflexion, faire rayonner cette vision, cette lumière de la connaissance. On pourrait reprendre notre idée des lumières du XVIIIe siècle. Faire rayonner cette idée autour du monde. Deuxièmement, la stratégie. Si ma priorité, c'est la connaissance, quelle stratégie est-ce que j'emploie? Valoriser la connaissance philosophique et scientifique, la récompenser publiquement, donner aux intellectuels un pouvoir politique, culturel et économique, répandre ce modèle autant que possible. Troisième point d'analyse, les caractéristiques. Alors, si on réfléchit au monde entier, il y a de longues années d'études intensives. Les diplômes sont bien valorisés, les marques de réussite intellectuelle sont valorisées, et puis il y a de fait un cercle restreint qui est en haut de ce sommet. Parfois on parle du cercle germano-pratin, une fois de plus, ça dépend, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas grave. C'est un cercle qui peut être très tourné vers lui-même. Quatrièmement, l'impact sur le cœur humain. Si la connaissance est mon idole, il y aura un aveuglement par rapport à d'autres valeurs, une arrogance intellectuelle potentiellement, un problème aussi, une difficulté de se remettre en question potentiellement. Le symbole physique apparaît, alors j'ai pensé au Collège de France, qu'on va voir là. Monsieur est professeur au Collège de France, c'est la marque d'être arrivé, n'est-ce pas? On pourrait aussi dire le Panthéon, avec les noms qui sont inscrits comme étant les héros dans cette logique de la connaissance. Et enfin, sixième point d'analyse, on y reviendrait plus tard, mais si on réfléchit à des idoles, il faut aussi se dire, mais comment est-ce que en fait, l'Évangile répond? L'alternative évangélique, c'est qu'il y a une vraie connaissance de Dieu dans la face de Jésus-Christ, et qu'à travers la parole de Dieu, qui nous donne des lunettes pour comprendre l'homme et comprendre l'univers, nous pouvons connaître nous-mêmes, nous connaître, et connaître l'univers par cette perspective biblique. C'est une façon d'analyser ces choses. À Athènes, il y a 2000 ans, la connaissance était puissante. On peut avancer d'une diapo, je pense, déjà. La connaissance était au cœur des passions de ceux qui étaient là. Et l'apôtre Paul va l'aborder. Il va remettre en question les valeurs de ceux qui l'entouraient. Et j'aimerais parler de trois choses ce soir. Premièrement, voici le vrai Dieu. Je vous invite à garder ce texte ouvert, si vous le pouvez. Verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, ce haut lieu de la connaissance athénien. Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Alors souvent les gens lisent cela et disent, Paul, il tend la perche aux Athéniens, il est vraiment sympa. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas peut-être en train justement de les remettre en question. Vous pensez tout connaître, bien peut-être même dans votre grande connaissance, vous avez toutes les nouveautés philosophiques, vous avez toutes les infos ici. Quelqu'un ici à Athènes a eu l'idée que peut-être il y a des connaissances importantes qui nous échappent. Il y a peut-être un dieu inconnu. Peut-être qu'il s'attaque, l'apôtre Paul, à l'arrogance intellectuelle de quelqu'un qui se dirait « mais c'est bon, on sait tout ». Alors, dans leur faveur, on voit qu'il y a une demande de leur part, vous annoncez quelque chose de nouveau, on veut en savoir plus. Donc, je dirais qu'il y a quand même quelque chose de positif. Mais nous ne pouvons et nous ne pouvons pas tout savoir. Nous avons besoin que Dieu se révèle ou qu'un Dieu inconnu se fasse connaître. Ça remet en question celui qui met la connaissance à la première place. Et c'est la conviction qui traverse toutes les Écritures que nous avons besoin que Dieu se révèle, que Dieu se fasse connaître. Nous ne pourrons pas, de nous-mêmes, avec notre intelligence, avec nos réflexions, trouver tout ce qu'il faut savoir. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Dieu a tout fait, mais il maintient en existence toutes choses aussi. Parce qu'il avait vu, il y a les deux là-dedans. Donc, il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Mais il donne, c'est au présent, la vie, le souffle et toute chose. Il y a un travail continu de ce Créateur. Ce n'est pas un Dieu qui a créé puis qui s'est absenté. C'est un Dieu qui maintient l'univers en existence à tout moment. On ne va pas forcément le percevoir avec la science humaine. La science humaine est limitée dans ce domaine. Stephen Hawking est un scientifique réputé à l'université de Cambridge, un physicien, et dans son livre le plus connu, Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, il reconnaît les limites de la science, qui peut expliquer le comment de l'univers, mais pas le pourquoi, ni le qui a créé tout cela, qui le maintient en existence. Il parle, donc à la fin de son livre, de l'idée d'une théorie scientifique qui pourrait tout expliquer. Une grande théorie unifiée qui, avec des modèles mathématiques, des équations, pourrait tout expliquer. Imaginons qu'on arrive à avoir une théorie qui explique tout. Des équations qui arrivent à tout expliquer. Je cite, même si on avait ça. Qu'est-ce qui insuffle le feu dans les équations? et créer un univers qu'elles peuvent décrire. L'approche normale de la science, de construire un modèle mathématique, ne peut pas répondre aux questions de pourquoi il y aurait un univers à représenter par ce modèle. Pourquoi l'univers fait-il tout l'effort d'exister ? C'est l'univers qui fait un effort pour exister. Est-ce qu'une grande théorie attend d'élan propre qu'elle pourrait exister de son gré ? Ou faut-il un créateur ? Et si c'est le cas, a-t-il, le créateur, d'autres impacts sur l'univers ? Fin de citation. On peut avoir des équations, mais il y a quelque chose qui insuffle le feu. Donc, la science a ses limites, et l'existence d'un créateur échappe à une science expérimentale, en tout cas, telle que Hawking l'exerce. Selon l'anthropologue, il y a en effet un créateur. Non seulement il a eu un impact par la création, mais il a un impact constant. C'est tout ce qu'il donne la vie, à chaque instant, il donne la vie. Et donc, on peut décrire scientifiquement le fonctionnement d'une chose ou d'une autre, mais saisir le pourquoi et saisir les autres impacts du créateur sans son aide, ça nous dépasse. Alors, vous respirez en ce moment, oui. Vos cœurs battent, oui, c'est bon, ouais, il n'y a pas de mort dans la salle. C'est bien, pour ceux qui ronflent, vous ronflez, c'est tout cela grâce au soutien du créateur, un instant après l'autre. Ce n'est pas possible sans l'intervention active de Dieu. Donc ce Dieu n'est pas inconnu, dit l'apôtre Paul, verset 27. Il a voulu que les hommes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le vrai Dieu, le voici, il a tout fait, il maintient tout en existence, il n'est pas loin. Alors il est invisible, on ne peut pas le voir. Mais vous vivez, donc il n'est pas loin de vous en quelque sorte. Comme si sa main se posait sur vous pour vous maintenir en existence. À des Athéniens qui pensent tout connaître, l'apôtre Paul annonce une nouvelle connaissance, le vrai Dieu, le Dieu créateur, qui maintient tout en existence. Voici, le vrai Dieu, Dieu-même, voici l'avenir. Verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Alors tout d'un coup, je ne sais pas si vous l'avez senti en lisant le texte, mais l'ambiance a dû changer sur l'arrière-page. Attends, donc vous avez parlé d'un créateur, mais là, vous avez parlé de jugement pour chaque homme. Tout le monde doit changer profondément, se repentir, se détourner. Ça a dû jeter un petit froid, je pense, je sais pas. Le gars qui se lève à la réunion des militants de la CGT dit « Faut tous voter Sarko !» Bon. Je ne sais pas si l'apôtre Paul s'est fait beaucoup d'amis à ce moment-là. Si Dieu existe, s'il a tout fait, si chaque instant de votre vie n'aurait pas lieu sans son action, et nous avons vécu comme s'il n'était pas là, il va falloir changer quelque chose. Est-ce qu'un jour, il y aura un impact sur l'univers de la part du Créateur ? La Bible dit que oui, notamment. Il y aura un dernier jour où l'impact sera visible, on ne pourrait pas l'échapper. Peut-être on trouve ça un peu difficile comme méthode d'évangélisation. Peut-être les vérités dures à entendre sont parfois celles qu'on a besoin d'entendre. La réalité ne dépend pas de nos envies, de nos sentiments, que je le souhaite ou pas, des terroristes existent. On l'a vu tragiquement récemment, n'est-ce pas ? La réalité ne dépend pas de ce que je souhaite. Si Dieu existe, alors il y a des conséquences pour nos vies. J'ai lu une interview il y a quelques années avec Caroline Barclay. Et le journaliste lui a posé cette question. Si le ciel existe, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise en arrivant au paradis ? La réponse, je ne crois pas en Dieu, c'est comme ça. Il ne peut donc rien me dire en particulier. intéressant. Parce que je ne crois pas en Dieu, il n'a rien à me dire. Si Dieu existe, ce n'est pas mes croyances, ma croyance, qui va l'empêcher de me dire quoi que ce soit. Si Dieu existe, il ne dépend pas de ce que j'ai dans ma tête. L'apôtre Paul a rencontré Dieu sur le chemin de Damas. Et il annonce, il avertit, Dieu a un projet pour l'avenir. Ce projet, c'est un dernier jour de jugement. Étant donné qu'on vit dans le monde que Dieu a créé et qu'on ne lui rend pas gloire, la gloire qui lui est due, on doit changer d'attitude, se repentir, changer de direction. C'est le virage 180 degrés. Comme ça, je passe comme ça. Pour les non-mathématiciens, 180 degrés, c'est ça. Ouais. Vous avez compris ? Pour arrêter de fuir l'autorité du Dieu créateur, courir dans l'autre sens, il faut se retourner vers lui, l'accepter en tant que roi et chef. Et notamment, accepter son juge, l'homme qu'il a désigné pour la tâche de mettre en œuvre son jugement. Est-ce que l'idée de rencontrer Jésus comme juge, ça nous attire ou ça nous répulse? Paul affirme que ce jour n'est pas loin dans un sens. Alors oui, c'était il y a 2000 ans et le jour toujours pas arrivé, donc ça va, on peut prendre son temps. La Bible dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Donc voilà, il ne faut pas croire que si ça fait 2000 ans que ce n'est pas venu, ça ne viendra pas demain. Si ce n'est pas encore là, c'est que Dieu est patient et qu'il y a encore l'occasion aujourd'hui de revenir vers lui, de se retourner, d'être à son écoute. C'est beaucoup dire, hein. L'apôtre Paul, dans quelques mots, je trouve qu'il traverse pas mal de terrain, dans un sens, mais ses affirmations ne sont pas dans le vent, comme ça, au hasard, mais des affirmations soutenues par un événement historique. Voici le vrai Dieu, voici l'avenir. Troisièmement, la clé, c'est la résurrection. Verset 31 encore. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde avec justice. Par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. L'apôtre Paul a du courage devant ses grands philosophes à l'Aréopage. D'où vient ce courage? D'une rencontre avec un homme revenu de la mort. Peut-être aussi d'autres rencontres avec des personnes qui avaient aussi rencontré celui qui est revenu de la mort. Peut-être aussi du fait qu'au début, ce Paul avait tout fait pour faire taire ses témoins, un persécuteur acharné. Il était là en tenant les manteaux de ceux qui ont lapidé Étienne, le premier martyr. C'est ce Paul-là qui a rencontré Jésus-Christ et qui a vécu un changement profond et soudain. C'est pas évident aujourd'hui de dire « Oui, je crois que Jésus sera le juge de chaque être humain. » Je ne le dis pas, je dirais, facilement. Mais il me semble qu'on a, dans le livre des Actes par exemple, mais autre part aussi, une variété de témoignages, une multiplicité de témoignages qui se concordent et qui sont convaincants. Des témoignages dignes de confiance. Un grand nombre de ceux qui ont étaient témoins de Jésus ressuscité, ont donné leur vie parce qu'ils refusaient d'abandonner ce message, d'arrêter de le proclamer, d'arrêter d'en parler un peu ici. Et lorsqu'on lit, par exemple, les lettres de Paul ou de Pierre ou de Jean, il me semble qu'on peut discerner, pas des personnes avec des gros troubles psychiatriques, on peut ne pas être d'accord avec la logique, je dirais, de l'Épître aux Romains, mais c'est quand même quelque chose qui est écrit avec une vraie réflexion, une logique, quoi. Donc, c'est pas... voilà. À mon avis, ce ne sont pas les écrits de personnes qui sont profondément psychologiquement troublées. Bon. On croise, on trouve dans le Nouveau Testament des écrits de personnes qui ont rencontré un homme revenu de la mort, qui ont été convaincus que ce charpentier venu de Nazareth était le roi divin, le Christ annoncé dans l'Ancien Testament, et même Dieu venu sur terre. Je ne sais pas si on avait été là et il y avait cet artisan de Poitiers qui revient de la mort. Ce ne serait pas évident de dire c'est le Christ. Ce n'est pas pour critiquer Poitiers. Hein. Mais quelque part, voilà, si on se met à leur place, on voit que ce n'est pas facile. Mais face à Jésus, il y a eu cette conviction claire que celui-là, c'est le roi que Dieu a promis. C'est celui que Dieu a désigné comme étant le juge de tous. Hawking veut savoir s'il y a un créateur, est-ce qu'il a d'autres impacts sur l'univers. Il me semble que la meilleure réponse, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas très convaincu par la plupart des preuves de l'existence de Dieu, à part Jésus, en fait. Et selon Paul, celui-là, Jésus détient les clés de la vie et de la mort. Celui-là détient les clés, la réalité du jugement dernier. Imaginons qu'un jour, vous avez eu l'occasion de rencontrer un homme qui est de toute apparence ordinaire. Cet homme vous dit, moi je peux voler, je peux aller très, je pourrais même aller dans l'espace. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je peux monter. Je serais un peu sceptique, quelques doutes. Puis il se présente. Je m'appelle Neil Armstrong. Ah ouais, il l'a déjà fait. Ça change tout. Il a marché sur la Lune. Mes parents l'ont vu en direct à la télé en 69. La résurrection, c'est la preuve que Dieu a mis Jésus à la tête de l'univers. Et donc, quelque part, que, en effet, à la fin, l'univers aura à répondre à lui et à nul autre. Et devant ces philosophes, à l'aréopage, Paul leur dit, il faut aujourd'hui en prendre compte. Cette réalité de Jésus, d'un jugement, de celui qui est désigné par Dieu, aujourd'hui c'est l'occasion d'en prendre compte, avant qu'il ne soit trop tard. Moi je ne sais pas où vous en êtes par rapport à Jésus-Christ. Mais si vous n'avez jamais, de manière explicite, dit à Christ que vous vous détournez d'une vie où vous suivez d'autres dieux, d'autres priorités absolues, et vous vous abandonnez à lui, je vous dis qu'il faut le faire. Selon le Nouveau Testament, il faut le faire. Peut-être que vous aurez l'occasion, si vous avez des questions à ce sujet, j'aurai à partir moi-même, mais Daniel, ou Libby, Marion, ou Jean-Mathieu, Mathieu au fond, il y a plein de gens qui pourraient vous parler de ça, Mario. N'hésitez pas à poser vos questions, ayez le courage de le faire. J'aimerais aussi parler ce soir à ceux qui ont fait ce choix de dire, en effet, je veux me détourner d'une vie sans le Christ, le roi de Dieu, et je m'accroche à lui. Et juste rappeler que quand Paul dit que nous devons donc changer d'attitude, nous repentir dans l'ancienne traduction, que tout en étant la porte d'entrée dans la vie chrétienne, la repentance, c'est aussi le moteur du renouveau dans la vie chrétienne. Est-ce que cette semaine, je me suis posé devant Dieu pour réfléchir, est-ce qu'il y a des choses dont je dois me repentir? Est-ce qu'il y a des choses dont je dois me détourner? Et le dire à Dieu, et lui demander l'aide de le mettre en pratique. Il y a un encouragement à la fin de ce chapitre, je l'ai déjà vu au verset 34. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Verset 32, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Lorsque Jésus-Christ est annoncé, il y en a qui se moquent. Il y en a qui disent, nous t'entendrons à nouveau, qui étaient là-dessus une autre fois. Et il y en a qui croient, qui disent en effet, je veux m'accrocher à celui-là, celui que Dieu a désigné, celui qui a démontré la réalité, la puissance de Dieu, de par sa mort et sa résurrection. Donc, il me semble que devant la réalité de l'idole de la connaissance, ici à Paris, nous devons continuer à dire « Voici le vrai Dieu, il a tout fait, notre vie est en lui. Voici l'avenir, il y a un jour qui vient. Il faut se retourner aussitôt que possible. Et la clé, c'est la résurrection. » Je vais prier. Merci notre Dieu pour ces vérités. Te remercions pour la sagesse que tu as donnée à l'apôtre Paul. Te remercions pour les trésors de sagesse qu'il y a en Jésus-Christ. Et nous te prions notre Dieu que tu nous donnes d'être attentifs à Jésus, d'apprendre, d'être assis à ses pieds jour après jour, afin de pouvoir t'honorer comme nous le devons, toi le Créateur, toi qui nous maintiens en existence chaque jour, chaque instant. Nous te prions que tu nous donnes de réfléchir avec sagesse sur notre monde, sur la réalité de ce qui vient. Seigneur, nous te demandons de nous donner de parler de Jésus avec courage. Nous te bénissons, notre Dieu, pour la résurrection et la confiance que cela a donnée à l'apôtre Paul et que cela peut nous donner encore aujourd'hui. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
Merci à Edouard pour...